Aujourd'hui, notre émission aurait pu s'appeler La Barbe, mais ce titre aurait prêté à confusion. Vous auriez hésité sans doute, documentaire sur la mode hipster ou sur le groupe d'action féministe. Mais la barbe dont nous allons parler est celle de ceux qu'on appelle parfois les barbus. Cette barbe est celle qui a conféré à Omar Ben Lala ce qui ressemble à de super pouvoirs temporels autant que divins. A-t-il été auparavant un grand frère? Le documentaire nous le dira peut-être, mais lui, c'est l'habit de croyant qu'il a endossé dans les années 90.
Et il a été repéré par Pierre Rosanvallon pour sa collection « Raconter la vie » aux éditions du Seuil.
Oui Hervé, nous allons suivre ce musulman qui, dans le quartier de la Banane, a goûté le début d'une trajectoire allant le mener de la ferveur la plus ardente à une forme de désillusion. La première étape de cette aventure spirituelle commence par les vertus du prêche.
Je comprends qu'il va falloir que je devienne un bon musulman, et être un bon musulman, c'est être un bon prêcheur. Je me rends compte que le meilleur public que je peux toucher et que je peux atteindre, en tout cas le plus facilement, c'est mes copains qui sont ici dans ce parc. Et la première fois que je viens les voir, alors que ça fait des années que je traîne avec eux et que j'ai justement cette barbe naissante, le turban et l'habit en fait qui va avec, je suis écouté comme jamais, regardé comme jamais. Et l'ascension en fait, en tout cas entre moi et moi, commence, cette espèce d'ivresse commence justement avec cette réaction du public, si j'ose dire. Je me rends compte que ça fonctionne et que ça fonctionne plutôt pas mal, et après avoir prêché mes copains, je me dis bah tiens, je vais essayer un peu plus loin et toujours un peu plus loin et un peu plus loin, et ça fonctionne toujours autant. Et c'est là que cette ascension un peu spirituelle commence. Et je me souviens que dans le quartier, on me charriait souvent pour mon acné, comme ça arrive entre adolescents. Et là, pour la première fois, en fait, on me regarde vraiment pour autre chose. Donc cette barbe naissante, ce turban, le discours, bien entendu, qui va avec, même s'il est très balbutiant au début. Et ouais, je suis complètement galvanisé et je deviens une espèce de super-héros dans le quartier, en tout cas, le seul comme je suis.
La barbe et la foi. Un documentaire de Najma Bouakra et Julie Béressi.
Sur une dizaine de convives, la moitié porte la barbe et l'habit musulman. Un mixte entre la tunique héritée de l'arrière-pays pakistanais et la robe de l'homme d'affaires saoudien. Ça en jette bien plus que ma dégaine mille fois vue et revue. L'image de Satan Petit Cœur me vient immédiatement à l'esprit. Ce personnage de Dragon Ball, dessin animé culte pour ma génération, m'a ensorcelé au point de devenir l'une des causes de ma précoce déscolarisation. J'ai passé des heures à reproduire sur papier canson cette cape extra large qui laisse subtilement deviner un corps de guerrier accompli. Mélange de pudeur et de majesté. Et surtout ce turban croisé dévoilant des oreilles aussi furieusement pointues que les miennes. La réserve d'un jeune homme presque éteint, le suaire soigneusement ordonné sur le crâne, m'impressionne. Lorsque je vérifie auprès d'un de ses camarades l'identité du mystérieux personnage, mon interlocuteur me fait cette réponse séduisante. Il est avec Dieu.
Vous n'entendrez pas ici de djihadistes repentis, ni de musulmans honteux. Omar Ben Lala a écrit un livre, La Barbe, une nouvelle inspirée de sa vie, sans concession aucune. Omar s'amuse du jeune homme maladroit qu'il a pu être, de son désir ascensionnel, appartenir à un monde nouveau, fait de communion et de fraternité. Musulman prosélyte, mais non violent, la religion est venue donner une consistance à son désir d'une autre vie, ou de devenir un autre. Fin des années 90, Omar est un type que l'on remarque avec sa barbe, un type que l'on écoute pour son savoir, un type en qui l'on a confiance parce qu'il vous parle les yeux dans les yeux, de la peur de la mort, de votre rôle sur Terre, et bien sûr, d'une renaissance possible. Omar fut un prêcheur, un très bon prêcheur, un athlète de Dieu. Bonjour Omar Ben Lala.
Bonjour Najma.
Il paraît que j'ai rendez-vous avec un des tout premiers barbus de la capitale.
Il paraît. En tout cas, un des premiers visibles. Dans le quartier, j'ai vraiment été le premier. Et c'était pas du tout une mode, ce qu'on peut appeler aujourd'hui les hipsters. Pratiquement personne n'avait la barbe.
Nous sommes au Square Sorbier, c'est ici que vous nous avez donné rendez-vous.
C'est ici en fait que je fais mes premiers pas, au sens strict du terme, que j'apprends à marcher. Et c'est là que je fais mes premiers prêches aussi. Les premiers prêches que je fais, je les fais pour mes copains, et mes copains sont ici dans ce parc.
Si on va dans le quartier, donc juste en contrebas, la cité quoi, des Amandiers, est-ce que vous pouvez reconnaître des visages?
Oui, bien sûr, ouais. C'est beaucoup moins qu'avant, parce que les jeunes, maintenant qu'ils peuvent se retrouver dans le quartier, en fait, sont surtout les petits frères ou même les enfants des copains que j'avais. Et donc, il y en a certains, on se reconnaît, on se croise, on se salue. Mais les anciens copains, en fait, malheureusement, sur la dizaine de potes que j'avais, avec qui je traînais, il y en a trois ou quatre qui sont décédés de mort violente, donc avant 35 ans. Donc malheureusement, je ne les reverrai plus. Et c'est aussi l'un des drames de ce quartier, enfin de la partie plus basse, c'est que c'est un quartier extrêmement violent pendant un moment. Et c'est aussi ce que j'ai voulu quitter en allant à la mosquée. C'est surtout ce que j'ai voulu quitter en allant à la mosquée. Une violence qui finalement était grandissante, et j'ai senti très rapidement que si je m'inscrivais justement dans ce genre de parcours, j'allais peut-être y laisser ma peau. Hein.
Mort violente, ça veut dire bagarre, c'est la drogue? Qu'est-ce que c'est les morts violentes?
Bah, c'est des assassinats, quoi. Ouais, des meurtres par arme à feu. Donc le dernier, là, il y a quelques années ici, là, il y a 3 ans, 3-4 ans, juste un peu plus bas, rue des Amandiers, un ami en fait qui est décédé à 36 ou 37 ans. Donc c'est pas un âge où on est censé mourir, encore moins dans son quartier. Et malheureusement, en fait, c'est pas un cas isolé, donc c'est aussi ça, le quartier, sous certains aspects. C'est aussi mon quartier, donc je le vois pas seulement sous cet angle-là. Et Dieu merci, fort heureusement. Mais l'endroit où on va descendre, en fait, rue des Amandiers, donc c'est un endroit qui s'appelle La Banane. Et c'est l'endroit où j'ai traîné quand j'ai arrêté l'école à 15 ans, enfin à 14-15 ans. Et il y a un local poubelle, je vais vous montrer l'entrée, je pense que c'est scellé. Mais c'est là en fait où on traînait la plupart du temps, dans ce local poubelle, et où on vendait nos petites barrettes. Et le jeu qu'on avait, c'était d'éteindre la lumière de ce local poubelle, et tout le monde se tapait dessus, et puis à un moment on rallumait la lumière, maintenant c'est toi qui m'as tapé, non c'est toi, etc. Et donc c'est quelque chose que j'ai toujours détesté, mais en même temps c'est extrêmement compliqué de sortir de ce local poubelle, bien que ce soit qu'un local poubelle, donc parfois il y a des attaches qui sont limite surréalistes. Et quand on m'a proposé justement de m'inscrire dans un projet en fait religieux à la mosquée, dans une mosquée qui fait 400 mètres carrés avec une terrasse, avec de la moquette, des gens en fait qui parlent doucement, etc. Ben, c'était entre ça et le local poubelle, le choix était vite fait, quoi.
On y va ?
C'est le quartier qu'on appelle La Banane. Et en fait, avec mes vieux potes, on est très contents parce qu'ils sont en train de nous faire un terrain de foot ici. C'est le retour de la compétition.
Mais la cité est plutôt encaissée.
Et là, vous avez le fameux local poubelle. Voilà ce que je fuis. Ce qu'il y a derrière cette porte, qui doit, à mon avis, être scellée. Donc généralement en hiver c'est là qu'on se mettait, et puis en été, bon maintenant ils ont enlevé, ils ont mis des grilles, mais il y avait un espèce de petit muret où on s'asseyait, et c'est là qu'on se retrouvait.
Ça ressemble un peu à un îlot ici finalement, parce que donc on est dans des petites barres HLM, mais tout semble concentré.
Complètement, non mais c'est vrai, on dirait en fait que c'est presque un endroit à part, un peu entouré de tous ces petits immeubles, mais finalement en fait complètement presque seul. Donc voilà, moi c'est vraiment une période que j'ai vraiment détestée.
Vous dites que vous êtes un bac moins 3, c'est ça?
Un bac moins 3, oui, absolument. J'ai arrêté officiellement en 3e, mais officieusement, dès la 5e, j'avais commencé à décrocher. Une fois que j'ai eu 16 ans, parce que j'ai redoublé, j'ai fait un peu de CAP après secrétariat. Dieu seul sait pourquoi est-ce qu'on m'a mis en CAP secrétariat, mais c'est ce qui a été décidé pour moi à ce moment-là. Et voilà, après c'était terminé pour de bon.
Sentiment d'être recalé, d'être mis de côté, qu'est-ce que vous ressentez à cette époque?
Ouais, je le prends vraiment comme une injustice, parce que moi je me souviens que je veux faire de la philo en fait. Mon rêve en 3e c'est de faire de la philo, étant bon en français, et en fait on me propose un CAP de secrétariat ou maroquinerie. Et donc je choisis secrétariat parce que je me dis qu'il y aura plein de filles, ce sera déjà ça de gagner. Et le jour où la prof nous propose en fait d'écrire, enfin de taper à la machine sans regarder nos mains, je me dis que... pas apprendre grand chose, donc j'arrête quoi. J'arrête les frais.
Bien, bonjour monsieur Omar. Monseigneur.
Et
Fantastique.
Discrète, hein.
On a besoin de ton témoignage.
Eh bien, témoignons, je suis là pour ça. Témoignons.
Qu'est-ce que c'est que cette moto?
Alors ça, c'est une, c'est la reine des motos, c'est la Honda Goldwing. C'est une moto, c'est un canapé roulant. Voilà, c'est mon outil de travail, je suis mototaxi.
Et vous avez connu Omar?
Oui.
Il y a quelques années maintenant?
Oui.
Il ressemblait à quoi, Omar? Parce que là, la barbe est plus éparse maintenant, mais...
Ouais. Alors, il faut savoir que la barbe, ça donne un aspect complètement différent. C'est pour moi un autre. Avant, il avait une barbe qui était beaucoup plus longue, pointue, bien coiffée. Et en fait, c'est, je dirais même, c'est le premier barbu du quartier, mais c'est aussi le premier barbeur du quartier. Puisque Omar avait une double casquette. Il était à la fois très investi dans la confession musulmane, très imprégné dans la religion. Il le pratiquait très bien, ce bel islam. Et à la fois, il avait, paradoxalement, ce côté complètement branché et hipster d'aujourd'hui, et ce qui faisait vraiment le paradoxe du personnage. Mais ce n'était pas qu'un effet de style, et ce n'était pas que pour en jeter. Chacune de ses personnalités était vraiment incarnée.
Est-ce que vous pouvez nous parler des prêches d'Omar? Est-ce qu'il subjuguait? Est-ce qu'il vous a subjugué, vous?
Non, il ne m'a pas impressionné, mais il était, sa démarche était saine. Il essayait de ramener les gens qui étaient intéressés par cette religion, à les ramener dans le chemin dans lequel lui il était, qui était pour lui un bon chemin. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai eu besoin de rencontrer cette religion. Il me l'a montré d'une très belle manière. Il m'a surtout montré comment je devais réfléchir à travers cette religion, comment je devais le chemin que je devais emprunter, avoir ma propre réflexion. Par contre, il m'a donné des bases essentielles et ça m'a fait énormément de bien. C'est un mec, ce qui est impressionnant, c'est que c'est les gens qui viennent à lui. Et les gens viennent se lui parler, et particulièrement quand il avait sa barbe, et c'était le seul à avoir cette barbe en Paris. Il n'y avait pas tous ces mecs avec des barbes, et je peux assurer que combien de personnes j'ai vu être attirées par lui, et rester toute la soirée collée à lui, et à débattre, et à discuter, ou même sur un banc dans Paris, je le laissais avec lui, il parlait avec la personne, puis je le laissais. Et puis, voilà, c'est vrai que les gens sont énormément attirés par son personnage. Il avait cette différence, il se distinguait complètement de ceux qui pratiquaient l'islam, déjà par sa tenue, parce que c'est quelqu'un qui voyait comme ça, mais qui est très précieux et qui adore le style. À l'époque, vous l'auriez vu, il était effectivement habillé de tuniques, de très belles tuniques, vraiment très harmonieux, avec une barbe bien coiffée, il était très distingué. Et vous l'auriez vu marcher dans les trottoirs de Paris du 20e arrondissement, on avait l'impression qu'il ne marchait pas sur terre, il marchait d'une manière un peu où il planait, un petit peu comme s'il était un petit peu au-dessus de nous. Voilà. C'est Omar avait sa spécificité et on avait l'impression quelque part que c'était entre guillemets un prophète.
Qu'est-ce que c'est que cet accessoire? Pourquoi est-ce que les barbes sont si entretenues? Elles sont coiffées, elles sont parfois longues. Pourquoi est-ce que les barbus prêtent autant attention à leur barbe, Olivier Douville?
C'est un signe d'identification. Et puis, c'est aussi une façon d'affirmer une virilité, qui peut être tout à fait postiche, une façon d'affirmer une virilité. Et puis, je pense que si... Prendre soin du corps peut avoir une dimension qui excède et qui le strict souci hygiénique, c'est prendre soin du corps qui nous a été confié par l'au-delà, par Dieu, etc. Donc il y a aussi des préceptes d'hygiène du corps qui renvoient à une dimension de purification. Parce que se convertir, c'est entreprendre une purification de son âme, une purification des autres. Omar, il en parle très bien, cette idéologie de la purification a quelque chose de très attirant pour lui. Et si lui-même se vit comme le déchet, l'impur d'une société, ce avec quoi la société ne peut pas composer, ne peut pas se mélanger, si on lui dit, mais écoute, il y a un idéal de purification, ton corps il a de la valeur, tu dois en prendre soin, ton corps représente au fond que tu es protégé par une communauté, ça fait du bien, évidemment que ça fait du bien. Quand on se sent pris pour un déchet, l'idéal de purification, ça soigne.
Allah, hasbi rabbi jalla. في قلبي إلى الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله 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 الله.
Me voilà prêt pour la compète. 40 jours de prêche en banlieue. Qui catastrophe d'autant plus mes parents que, à l'automne 1995, une terrible vague d'attentats frappe l'Hexagone. L'assassinat d'un imam dans une mosquée parisienne et les bonbonnes de gaz qui explosent à tout vent ont déclenché une traque aux barbus. Facile de nous débusquer. Nous sommes une minorité. Bien que les images ne circulent pas encore de portable à portable, comme c'est le cas aujourd'hui, les clichés diffusés par les médias me mettent en première ligne. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Véridique. La photo de l'ennemi public numéro 1, Jamel Zitouni, chef du groupe islamique armé, s'avérera celle de son frangin. Pour beaucoup, distinguer deux musulmans, c'est comme distinguer deux chinois. Trop compliqué. Comment jeter la pierre, à l'heure où, ayant laissé derrière moi tout signe extérieur de piété, il m'arrive également de juger mes compatriotes à leur mine.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Parce qu'en fait, les premières sorties que je fais sont en 95. Et en 95, c'est la période d'attentats... malheureuse, donc dans le RER, dans une mosquée aussi, un imam qui est assassiné dans une mosquée. Et en fait, à l'époque, il suffit qu'on voit un barbu, comme disait Jess, en fait, il n'y en avait pratiquement pas, pour qu'on ait vu tous les barbus. Et en fait, voilà quoi.
À l'époque, comment vous ressentez le fait que certains décident de prendre les armes en Algérie ? Pour une république islamique, comment est-ce que d'ici vous voyez ça?
Justement, en fait, c'est ce qui est aussi intéressant, c'est que moi, je suis absolument pas politisé, et en fait, c'est vraiment des événements en fait qui ne m'interpellent pas. En fait, j'ai presque même l'impression de ne pas les entendre. Et si vous allumez pas en fait la télévision à 20h et vous regardez pas le JT, vous savez pas trop ce qui se passe. Et moi, c'est mon cas.
Vous êtes de famille algérienne?
Ouais, de famille algérienne, ouais.
Et donc du coup, on en parle quand même de ce qui se passe en Algérie?
Non, pratiquement pas, vraiment. C'est quelque chose en fait dont on parle pas du tout entre nous. Et quand on regarde les infos, j'imagine que mes parents doivent dire que c'est triste, etc. Et à juste titre. Mais c'est vraiment une époque où moi je suis pratiquement tout le temps à la mosquée. Et donc c'est vraiment... je sais que c'est une question qu'on peut se poser. Moi, c'est quelque chose en fait qui m'interpelle absolument pas, quoi. Moi, les événements qui m'interpellent et qui m'interrogent et sur lesquels je m'interroge, c'est ce qui se passe après la mort. Donc j'entends beaucoup parler de paradis, d'enfer aussi éventuellement, et en fait de ce qui se passe à la mosquée, dans le quartier. Et en fait mon monde c'est ça. Et c'est suffisamment prenant pour que l'extérieur en fait ne m'atteigne pas. Donc comme je suis tout le temps en fait avec cette barbe, avec les vêtements qui vont avec, donc je suis tout le temps en fait sous le regard des gens. Mais je le comprends, et puis je comprends en fait que ça puisse étonner, que ça puisse parfois faire peur, etc. Mais ça, en fait, ça change absolument rien à mon cheminement. Je continue d'avancer, j'ai l'impression que je dois aller d'un point A à un point B, et il faut que j'y aille, tout simplement.
Allah, 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 salli ya Rabbi, ala nabina. أحمد الهادي نور المدينة الله حي الله 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 الله.
La puissance du religieux, oui, la puissance du religieux, c'est quelque chose dont on a un peu oublié.
Jean Birnbaum.
Le réel, quoi, le réel du croyant, le réel de cet élan intime, de cette certitude vécue. Ça pouvait être une causalité en tant que telle, que ça pouvait mettre en mouvement des gens. On a beaucoup été éduqués les uns et les autres dans l'idée que la religion était une sorte d'illusion, de chimère vouée à être dissipée par le progrès, la justice et autres. Et finalement, tout ça a été de plus en plus rabattu sur une sorte de fait social ou de résidu mal résorbé d'un monde voué à disparaître et à appartenir au passé. Et on a de plus en plus oublié que la religion, c'est pas juste un fait social ou une idéologie ou quelque chose qui a un rapport juste à l'économie ou à des pratiques matérielles, que c'est d'abord un élan spirituel, que c'est un mode d'être au monde à part entière, quoi. Il y a une façon d'être présent au monde, d'aller à la rencontre des choses, et que ça concerne tout, ça concerne le rapport à la vie, au corps, que voilà, une fête, une façon de manger, un rapport à la nutrition, au sommeil, hein, et tout ça engage en permanence effectivement un certain partage, une façon de voir la vie, un certain partage du bien et du mal, du vrai et du faux. Et donc c'est tous ces enjeux du sacré qu'on réduit toujours à, enfin souvent, à des choses un peu comme ça, périphériques ou idéologiques ou résiduelles, et qui en fait parfois sont ce qu'il y a de plus concret pour l'humanité. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit, c'est d'ailleurs, ça concerne de plus largement notre rapport au symbolique. C'est-à-dire souvent aujourd'hui, quand on dit c'est symbolique ou c'est purement symbolique, ça veut dire c'est rien, c'est que dalle, quoi. Et on a un peu oublié que le symbolique pour l'humanité, bah, souvent c'est pas rien, c'est tout.
Qu'est-ce qu'on dit quand on parle de symbolique? Qu'est-ce que c'est le symbolique?
Une des façons de définir le symbolique, c'est de dire juste que c'est ce qui vaut au-delà de soi, c'est ce qui tend vers autre chose que soi. Et donc, effectivement, dès qu'on est dans le religieux, par exemple, on a une espèce de manière de se brancher sur le symbolique, et donc d'avoir affaire à des textes, à des gestes, hein, qui toujours tendent vers autre chose que nous ou qu'eux. Et donc, ça veut dire tout de suite, on tend vers un au-delà. Et c'est vrai qu'en politique aussi, pendant très longtemps, on a tendu vers un au-delà, et la gauche en particulier a toujours proposé un au-delà du monde présent, un au-delà du capitalisme, un au-delà de ses injustices, des inégalités, des guerres, du monde bourgeois, du monde injuste, etc. Or, en fait, on peut pas vraiment vivre, je pense, en tant qu'être humain, sans avoir quelque part quelque chose comme un au-delà à l'horizon. Un au-delà qui peut être profane, qui peut être politique, qui peut être aussi spirituel et religieux. Et vous savez, il y a cette formule des Lunatiques, qui était ce duo de rappeurs auquel Booba appartenait avec son camarade Ali. Et c'était la grande époque de Booba, un peu. Et il y a une chanson, un morceau qui s'appelle, je crois, Le silence n'est pas un oubli. C'est à nouveau la question du silence. Et à un moment donné, ils disent, heureusement, on a l'au-delà pour nous maintenir. Bah, c'est un peu ça.
Vous nous parlez d'une espérance messianique, là ?
Oui, une espérance messianique, mais d'ailleurs avec cette idée que le messianisme là serait moins forcément la venue d'un homme providentiel que l'advenu et l'avènement d'un homme parfait. C'est là aussi, il y a quelque chose qui a été très présent dans l'histoire de l'Occident et qui y a un rejet aujourd'hui avec l'idéologie islamiste, c'est-à-dire l'idée d'une perfection humaine, l'idée que oui, l'homme parfait est à disposition, il est possible, il est possiblement à venir. Voilà, et c'est ça, quelque part, le messianisme, c'est pas seulement la venue de l'homme providentiel ou d'une force providentielle, c'est plutôt l'avènement d'un homme parfait. Cette question de la conversion, elle est très forte. La métamorphose de soi, de ce que Michel Foucault appelait effectivement une ascèse, une discipline, une métamorphose subjective de soi, une conversion. Or, en fait, cette conversion de soi, cette métamorphose subjective, elle est une révolution de soi qui, comme souvent la révolution, qui tend vers l'avenir, qui met en mouvement ce qu'il y a derrière soi, mais qui tend vers un horizon. Et toute la question est justement de créer un autre horizon, de créer un horizon, une perspective, de recréer une perspective et de s'extraire du monde tel qu'il est, qui est parfois révoltant et qui l'est effectivement, et de se dire, bon bah, où est-ce que je vais trouver l'énergie qui me met en mouvement vers un autre avenir possible.
Au-dessus de la porte, un écriteau bilingue annonce simplement le nom de la mosquée. Je le prends comme un signe. Elle et moi sommes homonymes. La mosquée Omar. Au premier, la petite frappe sans envergure découvre, ébahie, celle de son créateur. Mes pieds nus sondent le moelleux d'une moquette ciel, qui rappelle qu'ici, tout se joue à terre. Fenêtres ouvertes, la salle de prière paraît immense. Seules quelques silhouettes chétives la peuplent. Les bras ballants, les lèvres remuant juste assez pour chuchoter à l'oreille du Seigneur, les anciens prient. Ces hommes vêtus sobrement, à l'occidentale, sont de la génération de mon paternel. D'autres sont assis, le regard vague. Passé la salle de prière, un escalier dérobé mène à une terrasse. Quelques tapis, une antenne de télévision rouillée, une grappe de jeunes gens agglutinés autour d'une toile cirée sur laquelle trône une théière, quelques verres et, à même la nappe, la promesse initiale.
Donc, tout commence par des exercices physiques, une certaine concentration. Et à vous lire, donc, la coutume veut qu'on soit assis dans la position de l'étudiant, à genoux, les mains sur les cuisses, immobile au point que les oiseaux nous prennent pour perchoir.
Oui, absolument. En fait, c'est la première fois plutôt que je vois cette position utilisée autant, puisqu'à la mosquée, tout le monde est au sol. Et je me dis en fait qu'il va falloir que j'essaye justement d'apprendre à me mettre dans cette position.
Et je le comprends d'autant plus quand arrive le fameux cercle d'enseignement, où là, il est vraiment demandé de s'asseoir dans cette position pendant tout le temps du cercle, qui dure environ 1h30, 2h. Et je trouve ça extrêmement difficile. J'y arrive 2 minutes, 2 minutes 30 au début. Je dois avoir les muscles complètement raides. Enfin, j'ai toujours l'habitude de m'asseoir sur une chaise, sur un canapé ou un fauteuil, mais jamais au sol. Donc c'est l'un des premiers exercices, j'ai envie de dire physiques, qui arrive en fait à la mosquée, pour moi. S'asseoir, apprendre à s'asseoir. Et je me rends compte en fait que j'arrive de tellement loin que j'ai tout à apprendre. Je veux apprendre à être comme eux. Donc ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut que j'y arrive.
Donc ce mouvement-là qui vous attire tant, ce sont les tablières. Est-ce que vous savez qui sont les tablières à l'époque ou vous le découvrez ?
Non, absolument pas. En fait, je sais ce que je fuis en arrivant à la mosquée, je ne sais pas du tout ce que je vais y trouver. Et pour moi, en fait, il représente tout simplement ce que doit être un musulman. Donc en fait, je suis comme un perroquet. J'apprends en fait par cœur. Et c'est plus tard en fait que je commence à réfléchir, à me poser des questions sur ma propre position dans ce mouvement, etc. Mais au début, c'est absolument pas le cas. J'ai 20 ans quand j'arrive à la mosquée, j'ai quitté l'école, officiellement, on va dire vers 15-16 ans. Et donc ça fait 4-5 ans en fait que j'ai absolument rien appris. Et d'un seul coup, en fait, ça revient et j'adore ça. J'ai même envie d'en apprendre encore plus, et d'ailleurs, c'est ce que je ferai par la suite.
Si la terre était remplie d'arbres et que tous ces arbres étaient des kalams, justement, et que la mer serait une mer d'encre, et qu'on rajouterait à cette mer d'encre 7 océans encore d'encre, alors les paroles de Monseigneur ne s'épuiseraient pas. Certes, Monseigneur est irrésistible et sage. Sadaqallahu alayhi.
Omar, mais tant d'autres, découvrent une communauté et un espace dans lequel on peut apprendre. On parle d'apprentissage. Il y a l'idée de, tout d'un coup, de pouvoir être admis comme quelqu'un qui peut continuer à apprendre. Dans la communauté salafiste, on cherche, on étudie.
Oui. C'est une communauté qui met les gens au travail. Donc, quand ils découvrent d'abord ce petit ensemble de sujets assez fiers, pourquoi pas, bien sûr, d'être musulman qui se rassemble dans une pièce, voilà. Et il y a cette idée que on va apprendre, c'est-à-dire que... Alors, apprendre, qu'est-ce que c'est ? C'est apprendre une autre langue pour lui. Réciter la sourate de l'ouverture, je crois qu'on dit la fatia, c'est apprendre une autre langue. C'est déjà ça. Alors, qu'est-ce que ça peut lui donner comme genre de connaissance ? Parce que la nouvelle langue qu'il apprend, il la comprend pas. Il comprend pas bien. Bon. Alors, c'est plutôt que ça lui donne un ensemble de codes, de mots de passe, ce qui est nécessaire dans toute initiation. On apprend des codes, on apprend des mots de passe. Ça veut dire que ça veut dire, mais ce que ça veut dire, on le sait pas. Ça a un sens de dire ça parce que ça ouvre les portes, mais ce que ça veut dire en tant que tel, y a pas de discours à faire là-dessus. Bon. Et ce mot de passe, c'est un mot de passe qui le relie aux autres, puis qui le relie aussi à une certaine transcendance, parce que de bout en bout, il y a quelque chose à quoi il ne renonce pas. Il renonce à l'endoctrinement, mais il ne renonce pas à son besoin de transcendance. Si vous cherchez une bribe de haine, vous ne trouverez pas. Vous ne trouverez pas que son engagement transitoire dans le fondamentalisme a corrompu son cœur en faisant de lui quelqu'un de haineux, pour qui serait pas un bon musulman, pour qui serait un mécréant, etc. Il n'y a pas une once de haine misogyne. Et ça c'est quand même remarquable. Et de bout en bout, son besoin de transcendance, il est là. Alors, ce qu'il va apprendre, eh bien, c'est des habitudes communautaires qui font que chacun veille un peu au grain de cette transcendance. C'est ça qu'il va apprendre.
Peu à peu, les personnes donc, qui participent à une communauté salafiste parlent souvent d'un sentiment océanique, c'est-à-dire que, on peut le retrouver d'ailleurs dans d'autres religions, « si près de toi, mon Dieu, j'existe plus ».
Oui, il y a cette dimension qui est... moi, je suis pas spécialiste des religions, je veux dire. Une dimension où il s'agit de se fondre dans un sentiment d'universel, qui n'est pas l'universel laïque, qui n'est pas l'universel des droits de l'homme, et qui est un universel océanique. On voit très bien que la quête, elle se passe en deux temps. Elle se passe dans la je dirais, la transmutation, c'est-à-dire alchimiste, de sa position d'un peu d'incertitude, voire de rebut, en position de certitude, et puis de quelqu'un qui a de la valeur, qui a ses signes distinctifs, qui en prend soin. Ça, c'est le premier moment, mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'il y a la possibilité de pouvoir, à partir de cette nouvelle place, en entrevoir un apaisement océanique du rapport au monde. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas que cette seule étape de singularisation. Cette possibilité lui est donnée parce qu'il a trouvé une valeur de dignité à sa propre existence.
Yeah. One, two, one, two. Can I have everyone's attention, please? You know what time it is tonight, yeah? It's the open mic session now. All MCs in the place, yeah? Gather round, you know what I'm saying? It's time to bless the mic.
Vous devenez donc un prosélyte, vous couchez, et là, vous prenez votre bâton de pèlerin et puis vous faites des kilomètres et des kilomètres avec la bonne parole.
Oui, c'est ça, et je me souviens que mes compagnons m'ont dit, voilà, pour tenir, en fait, la clé, c'est de prêcher, justement. Et moi, c'est de ça dont j'ai besoin aujourd'hui, enfin, à ce moment-là, c'est de renforcer ma foi pour tenir. Et donc, tout de suite, je commence à aller prêcher, justement, d'abord les gens de mon quartier. Je vois que ça fonctionne et que ça fonctionne plutôt bien. Je les amène à la mosquée. Très rapidement, on me donne les clés de la mosquée. En fait, cette mosquée, c'est 400 mètres carrés au cœur du quartier. C'est la maison de Dieu avec une terrasse magnifique. Enfin, voilà. Quand je pense à ma chambre d'adolescent à l'époque, d'où j'ai toujours envie de me sauver, de fuir. D'un seul coup, en fait, on me donne les clés de la maison de Dieu et je peux y amener mes potes. Et j'en prêche d'autres. Et après, je vais de plus en plus loin autour, en fait, en banlieue, dans les quartiers alentours, etc. Et pour ensuite aller prêcher d'autres personnes, mais à travers la planète.
Il y a une constellation de mosquées établies, donc il y a celle de Saint-Denis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a peut-être à Trappes aussi, non?
Ouais, très certainement, en fait, c'est celle de Saint-Denis, c'est la mosquée principale. Et c'est une mosquée, en fait, qui me fascine quand j'y vais pour la première fois. Là-bas, je vois des dizaines et des dizaines, en fait, de jeunes, de moins jeunes, etc. Et donc, je rencontre ce fameux émir qui a donné sa vie, en fait, on va dire, dans le chemin de Dieu. Donc, qui n'est plus rentré chez lui et qui passe son temps, justement, en prière, en méditation, en prêche. Et moi, je suis fasciné, en fait, par cet engagement et par ce sens du sacrifice. Et ça devient un petit peu mon modèle, mon point d'ancrage.
Everybody in the place, yeah. You know what time it is now. It's the open mic session, you get me? Everyone make some noise for the open mic session. Wait, listen.
Et là, donc, vous avez des signes distinctifs.
Ouais, le turban, je l'ai porté très rapidement. Juste en sortant de ces trois jours au foyer, je suis allé voir un couturier au foyer, justement, et je lui ai dessiné une tenue qui ressemblait à celle de Satan Petit Cœur, donc mon personnage de dessin animé préféré, et à peu près aussi à celle des musulmans que je venais de voir. Et le turban, en fait, c'était vraiment... à la limite, si j'avais pu porter le turban et rien d'autre, j'aurais porté que le turban. Je me suis dit, c'est possible, bah, allons-y, quoi. Donc ça, plus la barbe, plus le discours... Plus après, il y a même le bâton de pèlerin, en fait, j'ai toujours une canne. Donc voilà, ça fait un gamin de 23 ans assez looké. Et parfois, ça arrive, des gens que je croise dans le métro, donc des gens qui me disent « Mais qu'est-ce que vous faites habillé comme ça? Vous êtes ridicule. Retournez dans vos pays ou que sais-je. » Enfin voilà, quoi, c'est pas non plus quelque chose de très courant, mais ça arrive, je me suis déjà fait cracher dessus, par exemple. Et moi, en fait, d'une certaine manière, je suis aussi très satisfait de ça parce que je passe mes journées et mes nuits à lire les histoires des prophètes et je me dis, bah voilà, je suis sur la bonne voie. Eux se sont fait cracher dessus, insulter, frapper tout au long de leur mission, donc c'est que je suis dans leur pas, quoi.
Et vous prêchez, quand vous prêchez, c'est toujours en français. Et ça démarre comment? Comment est-ce qu'on suscite l'accroche avec quelqu'un? Vous parlez d'abord aux hommes, j'imagine.
Oui, voilà, je parle d'abord aux hommes, même si il m'est arrivé de prêcher des femmes. Et en fait, les conseils qui sont donnés dans ce mouvement, c'est de prêcher les musulmans, donc les gens qui ont déjà plus ou moins accès à cette culture. Et en fait, l'accroche, c'est intéressant parce qu'il suffit de me voir, en fait, pour arriver vers la personne, pour que les gens se rendent compte que je suis là pour ça, quoi. Et c'est souvent des jeunes un peu de quartier, donc des jeunes que je connais, ou alors je connais leur situation et leur état. Et je sais que quand on est dans cet état-là et dans cette situation, on a envie, ne serait-ce que quelques instants, de souffler un peu de ça, quoi, de respirer. Donc je les salue, salam alaikum, je m'appelle Omar, tu t'appelles comment, nanana et tout. Bah écoute, je suis à la mosquée à côté, si t'as envie de venir, t'es le bienvenu.
puis parler un petit peu de Dieu, de sa générosité, du fait que la maison est ouverte en fait à tous et que ce serait dommage justement de pas y pénétrer. Et puis voilà quoi. C'est souvent un dialogue unilatéral en fait. C'est d'un seul côté. C'est souvent en fait moi qui parle et qui a dit les choses et puis en face, ouais, c'est vrai mon frère. Et puis après on y va quoi.
Il y a une façon de regarder, une sorte d'intensité à voilà qu'on doit avoir. Comment ça se passe?
Je me souviens en fait de la détresse que j'ai au moment où je suis dans la rue. Et en fait, je parle à la personne et je la regarde en fait comme j'aurais aimé qu'on me regarde et qu'on me parle au moment où j'étais dans ce local poubelle.
Et peu à peu, vous sentez que vous êtes un bon prosélyte, que les gens vous suivent?
Ah oui, très rapidement, ouais. Je m'auto-kiffe, quoi. je suis dans une espèce de satisfaction assez incroyable et c'est une espèce d'ivresse qui fait que je suis en train de découvrir ce pouvoir, le pouvoir de l'expression, le pouvoir de convaincre. J'en veux plus, quoi. Donc je suis extrêmement satisfait, extrêmement content de moi. Donc bien sûr, il y a un côté en fait qui dit un peu, voilà, non, je suis extrêmement humble, j'ai un souci pour la communauté. Et puis je pense que c'est vrai aussi. Mais avec du recul maintenant, je me rends compte que je prêche avant tout pour ma paroisse. Et donc voilà, là j'ai trouvé quelque chose, j'ai trouvé un créneau. Donc je vais le faire du mieux possible. Et donc ouais, je suis assez content en fait des résultats.
À la mosquée Omar, qui a une réputation à Paris, qui s'est radicalisée. Vous êtes passé par la bonne porte, non? Est-ce qu'il n'y avait pas un étage où, à côté, certains se radicalisaient de façon plus violente?
Ouais, moi, je suis passé même par la terrasse. Et donc, j'ai la chance de rencontrer, justement, des gens de ce mouvement et qui m'amènent vers un islam prosélyte, mais un islam extrêmement pacifique. Enfin, c'est tranquille par rapport à ce qu'on peut entendre un peu aujourd'hui. C'est même très tranquille. Mais c'est vrai qu'aussi, dans la mosquée, il y a d'autres musulmans qui sont là et qui ont un discours plus dur. Et finalement, en fait, j'ai aussi la chance de pas les rencontrer au début.
C'est à une porte près, ça se passe comment?
Non, c'est dans la même mosquée, mais c'est pas le même endroit dans la salle, quoi. Ça se joue parfois juste à ça, quoi. Ça se joue parfois à une rencontre. Et pourquoi est-ce que ça se joue à une rencontre? Parce que moi, par exemple, j'y arrive et je suis avec mon ami. Mais si j'y étais arrivé tout seul, il aurait suffi qu'on vienne me parler pour que je suive, en fait, et que j'écoute la personne qui me parle. J'y connais absolument rien. Et j'ai qu'une envie, justement, c'est de rester, justement, dans cette mosquée. Donc, expliquez-moi juste comment on fait pour y rester. Si on m'avait expliqué que pour y rester, il fallait aller se battre ou que sais-je. Je pense que personnellement, j'aurais pas suivi. Parce que moi, je fuis la violence de la rue, c'est pas pour la retrouver à la mosquée. Mais je peux comprendre que certaines personnes, en fait, se disent, bah, c'est comme ça qu'il faut faire, ok? On signe où?
Quiétiste ou non quiétiste? Être prédicateur suivant un courant salafiste pacifique ou choisir le salafisme révolutionnaire et radical? Fin des années 90, le salafisme s'ancre dans de petits groupes informels en banlieue parisienne. Sami Zegnani, apprenti-chercheur, entame une longue enquête ethnographique de 1997 à 2004. Il loue un appartement, trouve un travail et se rend dans de petites salles de prière. Il entre en conversation et partage la vie quotidienne des salafis. Le chercheur observe deux cités voisines. 5 kilomètres seulement les séparent. Deux groupes salafistes s'affrontent. Les noms des villes que vous allez entendre ont été anonymisés. Mais commençons par le début des rencontres dans le principal espace de socialisation des quartiers populaires, la rue.
En fait, l'idée, c'était d'abord d'occuper la rue, c'est-à-dire de voir comment les jeunes occupaient la rue. Et puis, je me suis rendu compte que parmi eux, il y avait des jeunes des cités bon, tels qu'on se les imagine, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas d'emploi et qui occupent la rue, mais aussi des gens qui occupent la rue pour discuter et pour échanger des idées autour de la religion. Et donc ça a été une découverte, en fait assez choquante pour moi, c'était en 1999, parce qu'ils avaient de longues barbes et que j'avais jamais vu ça jusqu'ici, quoi. C'était qu'ils soient aussi présents dans l'espace public, aussi visibles. Et puis ils avaient un discours assez sophistiqué sur la religion. C'est-à-dire que devenir salafi à l'époque, même si aujourd'hui ça a changé, mais disons de manière un peu... Bon, je suis obligé d'utiliser ce terme-là, mais de manière idéale typique, c'est-à-dire en forçant un peu les traits de la logique. Devenir un salafi, c'est apprendre à lire et à écrire en arabe. Ce qui est extrêmement violent pour des jeunes qui ne sont pas en fait issus du monde arabe, dans le sens où ils ont peut-être des parents nés en Afrique du Nord ou en Afrique subsaharienne, mais ils ont développé un rapport très très faible à la langue arabe. Déjà même au dialectal. Donc, ils ont peu de ressources, finalement, pour parachever ce processus d'apprentissage de l'écrit. Mais beaucoup d'entre eux avaient le sentiment d'avoir échoué à l'école. Et à l'âge de 20 ans ou 25 ans, ils reviennent sur les bancs de l'école, mais une école qu'ils ont réinventée. Et quand on apprend finalement à lire et à écrire, c'est-à-dire ce que j'appelle lire et écrire, c'est comprendre un texte, maîtriser son argumentation. Quand on fait ça, on change de point de vue. On change de point de vue sur le monde. Ça modifie notre manière de percevoir les choses. Donc, quand j'ai travaillé sur le salafisme, vraiment, un des éléments très importants dans le fonctionnement de ces activités, c'est la place accordée à l'écrit. C'est une génération qui est scolarisée par rapport à celle de leurs parents. Ils sont tous scolarisés, donc ils ont une véritable fascination du livre et de la connaissance. Malgré les apparences, malgré les échecs scolaires, etc., ils ont intériorisé la forme pédagogique comme une forme noble de relation. Et ils vont reconstituer ça, en quelque sorte, avec des tendances idéologiques qui vont être opposées. C'est-à-dire, d'un côté, à la Galnée, un salafisme quiétiste, où l'islam va gérer toutes les composantes de la vie sociale de l'individu, de la façon dont on se marie jusqu'à la façon dont on se couche dans son lit. Il y a des rites pour tout. Et un refus de la participation politique en Europe et un refus de la désobéissance ou de la rébellion vis-à-vis des gouvernants musulmans, y compris des gouvernants musulmans qui sont considérés comme de très imparfaits musulmans. À la Galnée, donc chez les quiétistes, on peut être musulman si on fait l'attestation de foi. La prière est une obligation, mais le fait de ne pas respecter ce pilier de l'islam ne vous rend pas, entre guillemets, mécréant. Voilà, c'est ce qu'ils pensent. Ce qui est quand même pratique, puisque la majorité des musulmans en France, peut-être on pourrait dire dans le monde, ne pratiquent pas la prière. Donc ça évite quand même d'exclure la majorité de votre entourage direct, quoi. Et de l'autre côté, donc, à Cerner, là on a un islam qui est djihadiste. Il est djihadiste parce qu'ils sont ravis de ce qui se passe le 11 septembre, ils s'opposent à la guerre contre l'Afghanistan à l'époque, etc. Et ils ont aussi un point de vue sur ce qu'est être musulman qui est complètement opposé. Quiconque ne fait pas la prière était considéré comme non-croyant. Donc ce n'est pas sans conséquence sur les relations avec les familles. Donc il y a vraiment deux formes d'islam, et pourtant, de loin, quand on les regarde, on voit les mêmes profils. On voit des gens qui portent, pour les hommes, qui portent une barbe, parfois les femmes portent le niqab, ou au moins un voile. Donc on a l'impression qu'ils sont pareils, et pourtant ils sont opposés. Donc à quelques kilomètres de distance, on a deux pôles du salafisme. C'est-à-dire un quartier cerné, enfin une ville cernée, où on a un islam djihadiste qui incite à prendre les armes, bien que je n'ai jamais observé quiconque ayant franchi le pas. Et une ville, à la Galnée, où au contraire, le djihadisme est condamné et il est combattu. Il est combattu, c'est le terme qu'il faut vraiment employer. Donc des conflits, ce sont des conflits théologiques entre deux villes, entre deux groupes qui se réfèrent aux mêmes auteurs, qui ont pourtant la même nomination, qui se disent salafi, voilà.
On parle donc de jeunes qui sont pratiquement voisins, qui sont à quelques kilomètres les uns des autres, et qui, du coup, il y a une certaine frérocité, c'est-à-dire qu'ils ne s'aiment pas, quoi.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, ça c'est un point qui est très important, pendant leur adolescence, ils s'affrontent, mais avec les règles de la rue. Donc il y a une période où c'est carrément une guerre de tranchées, où pendant plusieurs mois, ils s'envoient des cocktails Molotov, et c'est la guerre. On est dans une culture virile, où un des moyens de résoudre des conflits, un des moyens de s'opposer aux autres, c'est d'utiliser les poings, même si la tchatche, ça peut être très utile, et il y a des gens qui, une minorité, bon, qui peut-être deviendront des leaders culturels, artistiques ou religieux. La tchatche permet aussi, effectivement, de s'imposer aux autres, mais le moyen le plus efficace et le plus rapide, ce sont les poings. Et à un moment donné, lorsque les jeunes veulent sortir de cette logique-là, ils peuvent se sentir enfermés par une image, une réputation dans le quartier. Et comment on fait pour sortir de ça ? Alors on peut quitter le quartier si on a les moyens, mais si on ne peut pas quitter le quartier, il faut pratiquer ce qu'on appelle la reconversion identitaire. Et donc là, la religion est une manière de légitimer une reconversion totale, une alternation identitaire. C'est-à-dire, on fait table rase du passé et on crée une nouvelle identité de toute pièce. Donc la religion, elle va légitimer ce processus-là. Et donc changer le rapport aux autres. Cette fois, on va s'imposer grâce aux idées, grâce à la connaissance, grâce au travail théologique. Les conflits qui se réglaient par la force vont se régler à présent par l'argumentation, à coup de références théologiques. Et le charisme d'un salafi, il repose justement sur sa connaissance des textes. Et le pouvoir qu'on va obtenir sur les autres, il va dépendre de ça, de cette connaissance. C'est vraiment un changement de logique. On passe de la force physique comme moyen de s'imposer aux autres à l'argumentation théologique.
Karachi. Peu à peu, cette ascension ne vous suffit plus. Il faut encore s'extraire, aller encore plus loin. C'est une lente ascension.
Oui, c'est ça, parce que dans le mouvement en fait Tablir, dans lequel je m'inscris à ce moment-là, on va dire le vrai voyage initiatique est celui qu'on fait chez les maîtres à l'origine de ce mouvement, donc au Pakistan, en Inde et au Bangladesh. C'est un voyage de 4 mois et il faut passer 40 jours dans chaque pays. On dit que le Pakistan offre l'éducation du père, l'Inde du frère et le Bangladesh de la mère. Et en fait, il faut faire ce voyage-là. C'est la première fois finalement que j'arrive dans un pays musulman où il y a vraiment toute cette espèce de décor en fait, avec des douaniers justement avec des grandes barbes, des turbans. Puis on arrive en fait à Karachi et puis c'est une ville assez incroyable avec ses appels à la prière partout en même temps. Et donc voilà quoi, c'est la première fois que je me rends compte que j'arrive vraiment dans un pays musulman et qui fait pas semblant. Et j'adore ça quoi. Je me dis waouh, il y a une aventure qui commence. Je sais pas à quoi ça va ressembler, mais j'ai hâte que ça continue.
On est tout de même dans un contexte, un environnement plutôt rigoriste.
Oui, le Pakistan en fait c'est vraiment, on appelle ça le père en fait. On dit que ce pays-là en fait c'est pour d'une certaine manière, c'est pour briser l'ego, quoi. Et une fois que c'est bien cassé, après, on va apprendre un peu plus en Inde, au Bangladesh, en fait, les qualités, j'ai envie de dire, plus de partage, de gentillesse, d'échange, même si au Pakistan, ils sont aussi comme ça.
Comment est-ce qu'il est essoré, cet ego ?
On peut pas parler de mortification, quand même pas, mais c'est écouter un discours 2h30 le matin, au réveil. Et tout de suite, c'est le cercle d'enseignement. Et en fait, comme là-bas, on est vraiment, j'ai envie de dire, au cœur de la matrice, en fait, c'est vraiment le centre du Tablir mondial. Tout le monde a envie, en fait, de se donner à fond, quoi. C'est comme si, pour un jeune footballeur, on vous propose de faire un essai au Real Madrid. Vous essayez de pas rater une passe ni un contrôle, quoi. Et arriver là-bas, donc, il faut vraiment que je brille, quoi.
Sorti du Pakistan, vous arrivez en Inde et qu'est-ce qui vous saute aux yeux là-bas?
Ce qui me saute aux yeux, arrivé en Inde, en fait, c'est la misère, la dureté, la difficulté de la vie des gens en fait que je vois, et c'est surtout des petits mendiants qui viennent en fait pour demander l'aumône. Et quand je vois ça, je me dis waouh, quoi, c'est possible d'être autant en galère que ça, si j'ose dire. Et c'est la première chose en fait qui me frappe. J'avais jamais vu autant de pauvreté, autant de misère au mètre carré en même temps. Et je me dis en fait, parce que c'est aussi la première fois que je sors de France d'une certaine manière, et je me dis ça ressemble aussi à ça le monde. Et j'avais pas conscience de ça. Donc moi, à chaque fois, je glorifie l'être humain en glorifiant Dieu, en disant que c'est une créature merveilleuse, formidable, qu'il faut la respecter, etc. Et je me rends compte, en fait, en voyant ces Indiens dans la misère, qui ne sont pas mis forcément dans la misère tout seuls. Et je me dis, c'est aussi ça, en fait, l'être humain, l'humanité. Et je me pose de sérieuses questions du haut de mes 21 ans.
Et là, tout d'un coup, le rapport à la prière change ou pas? Qu'est-ce qui change?
Oui, bien sûr, le rapport à la prière change aussi, parce que avant ça, je prie, et dans mes prières, je prie pour la communauté en fait humaine, et je dis au Dieu, guide les hommes, etc. Et je le dis en fait comme je répète une chanson. Alors que là, quand je vois ça, la prière en fait devient beaucoup plus intense, quoi. Quand je demande à Dieu en fait d'arranger les choses, je lui dis là, il faut vraiment que tu arranges les choses parce que ça va pas, quoi. Donc bien sûr, il y a aussi ce rapport à la prière qui change, et c'est intéressant parce que plus la prière devient sincère, moins j'ai l'impression d'avoir besoin de parler. Et parallèlement, je vois justement les Indiens aussi qui sont avec moi et qui vivent avec moi et qui ont des qualités extrêmement élevées selon moi, et sans beaucoup parler eux non plus. Ils parlent essentiellement avec le comportement, avec les bonnes manières. Et j'ai par exemple, je rencontre un Indien là-bas qui s'occupe de nous, en fait, qui est un peu le guide du groupe et qui se lève la nuit pour laver notre linge en cachette. Enfin voilà, c'est des choses comme ça tout le temps, tous les jours. Et je me rends compte en fait que je suis quand même un sacré beau parleur, que je passe ma vie à donner des leçons à la terre entière, mais que je serais incapable de laver une seule de ces culottes en cachette. Et le guide, en fait, c'est souvent quelqu'un qui vient vraiment du peuple, quelqu'un d'extrêmement humble. Et en fait, c'est lui qui me touche le plus. Et je me dis, bah voilà, quoi, s'il s'agit d'avoir des qualités, c'est celles-là qui sont intéressantes, en fait, à acquérir. Les autres, bien parler, être stylé, etc. À quoi bon, finalement?
Pourquoi tout à coup, cet homme qui a fait finalement ce que votre mère faisait toujours chez vous, vous interpelle à 8000 kilomètres?
Bah, parce que je me rends compte en le voyant que je suis incapable de le faire. Et que ça fait un peu plus d'un an que je passe ma vie à dire aux gens qu'il faut être des gens super et que moi j'ai même pas le S. Donc au bout d'un moment je me dis voilà quoi, il faut le S de super. Est-ce que t'es vraiment ce mec génial que tu prétends être? Et sinon c'est pas non plus très grave, mais il va falloir commencer à s'y mettre pour de vrai. C'est pour ça que à ce moment-là je me dis voilà quoi, je suis en train de toucher du doigt ce que je cherche réellement. Et sauf que je me rends compte que ça va pas être aussi facile que ça. C'est parti en fait pour une vie d'éducation, quoi. C'est pas apprendre quelques sourates, etc. Et puis ça va le faire, quoi. Porter un turban, et c'est pas aussi simple que ça. C'est une question de qualité pure. C'est pas une question de discours.
Quelques mots sur un papier, beaucoup d'espoir. C'est un aller sans retour à la case départ.
Retour à la case départ.
On a arrêté de traîner, juste en trouvant nos rôles. Au final, c'est les plus petits qu'on retrouve dans nos halls. Esclave de ma passion, je me dis que je serai jamais.
Le retour à Paris, c'est un peu catastrophique.
Ah ouais, c'est complètement catastrophique parce que paradoxalement, en fait, quand je rentre à Paris, tout le monde m'attend à la mosquée parce que je suis le premier dans le quartier à avoir fait ce fameux voyage. Tout le monde, le petit groupe de jeunes que j'ai formé, etc., attend justement que je le prêche et que je lui apprenne les merveilles que j'ai appris là-bas. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est de me cacher sous terre. Je sais pas comment leur dire, je suis un peu piégé à mon propre piège. Et je me rends compte qu'à la mosquée, ça va être trop compliqué. Et donc, je m'en éloigne. Et en même temps, je sais pas trop où aller après ça. Il est hors de question de retourner traîner dans la rue. Et en fait, je me cache. Donc au début, je vais de moins en moins à la mosquée. Et après, j'y vais plus du tout. Et c'est aussi pour ça que je choisis la nuit et la discothèque, parce que justement, ça se passe la nuit. Ça me permet de plus me rendre visible dans le quartier. Et bien sûr, j'ai une culpabilité incroyable. Et je me rends compte, en fait, j'ai l'impression d'être un traître, quoi. D'avoir trahi Dieu, d'avoir trahi les croyants, d'avoir trahi mon engagement. Plus tard, avec du recul, je me rends compte, en fait, que non, c'était tout simplement le chemin qui continuait sous une autre forme. Et en fait, les gens... savent que je vais de moins en moins à la mosquée, il y en a qui commencent à entendre parler que j'irai en discothèque, etc. Il y en a beaucoup qui n'y croient pas, jusqu'à ce que je rencontre des copains en fait en after et qui sont devant le fait accompli, qui se disent « mais qu'est-ce que tu fais là ?» Ben voilà, je suis comme vous, j'ai 23 ans, j'ai aussi envie d'aller faire la fête.
Et elle devient peu à peu pesante, cette barbe ?
Alors au bout de 10 ans, il me faut 10 ans en fait pour la raser, donc pendant 10 ans je me balade avec elle, c'est une compagne... extrêmement intéressante à vivre, pas tous les jours facile, mais voilà. Donc le jour où je l'ai coupé et je suis redevenu en fait un invisible, ça a été pour moi le plus beau jour de ma vie parce que j'avais plus ce poids sur les épaules que je portais à travers cette barbe depuis des années.
Avec Omar Benlala, auteur de La Barbe, Sami Zegnani, sociologue, Olivier Douville, psychanalyste et anthropologue, Jean Birnbaum, journaliste et essayiste. Prise de son en binaural, Fabien Gosset, au mixage, Olivier Dupré. Coordination, Irène Omelianenko, attachée d'émission, Christine Bernard et Alison Sinard. Un documentaire proposé par Nejma Bouakra et réalisé par Jolie Beressi. Sur les docks.